impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs des impromptus, bonjour. Voici notre seconde émission sur les saveurs et les senteurs. Cette semaine encore, nous nous proposerons d'aller picorer, d'un auteur l'autre, dans des ambiances différentes, puis de vous laisser alors sentir, ressentir. Et pour ouvrir cette émission, nous avons choisi de magnifiques vers de Baudelaire, extraits des Fleurs du Mal. Savourez. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chante les transports de l'esprit et des sens.
Voici, en guise de mise en bouche, un court texte de Philippe Delerme, extrait de son recueil « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules » qui obtint le prix Grand Gousier en 1994 et le fit connaître du grand public. Depuis, Philippe Delerme a écrit de nombreux ouvrages. Il excelle dans l'art de décrire en quelques mots, avec précision et délicatesse, les petits riens de l'existence. En fin gourmet de la langue française, il dirige depuis 2006 la collection « Le goût des mots » pour les éditions Point Seuil. Aider à écosser des petits pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit-déjeuner, loin encore les parfums mitonnés du déjeuner, la cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. « Je peux t'aider ?» Ça va de soi. On peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre. Docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors on parle à petits coups. Et là aussi, la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase, mais l'autre doit garder la tête penchée. C'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contretemps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis... il y aura juste le pain à aller chercher.
La semaine dernière, nous vous avions déjà présenté une recette d'Eva Lacoste, extraite de son ouvrage « Les recettes d'Eva ». Ces propositions de plats traditionnels venus de tout pays sont de véritables moments de poésie. Aujourd'hui, le temps des cerises. Sa forme rebondie et sa peau bien ferme, annonciatrice de saveurs sucrées et acidulées, annoncent les beaux jours. Beige rosé ou pourpre foncé, tout dans la cerise est charnel. Pour sa ressemblance avec notre organe vital, les Grecs affirmaient que le cerisier était l'arbre préféré d'Aphrodite. La perle rouge a été rapportée en 66 avant Jésus-Christ par Lucullus après sa campagne contre le dernier roi du pont Mithridate VI, Eupator, une remarquable tête sculptée au Louvre, et son allié, le roi Arsacide d'Arménie, Trigane II le Grand. La cerise n'était pas totalement une inconnue, mais le général romain, gastronome, contribua à son expansion et à sa diversification. Son nom vient de Kérassonte ou Césaronte, aujourd'hui Giresun sur la mer Noire. Il est bien court le temps des cerises, de fin mai à début juillet. Mais les pendants d'oreilles qu'on cueille en rêvant, chers à Baptiste Clément, font de superbes desserts comme celui qu'on apprête en Bourgogne. Cuire à feu doux 10 minutes 1 kilo de cerises noires dénoyautées avec un peu d'eau et 300 grammes de sucre. Ajouter 3 cuillerées à soupe de gelée de groseille et quelques zestes d'orange préalablement blanchis. Et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. Décorez avec des feuilles de menthe ou de groseillier et flambez au mar au moment de servir. Le conseil du sommelier. Pourquoi pas un crémant de Bourgogne qui accompagne avec bonheur tous les desserts? Vous entendrez le guerre-rossignol et le merle moqueur, les belles auront la folie en tête. Et Dame Fortune pourrait bien vous sourire.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre-rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur.
Meyrigg, c'est l'histoire de Henri Verneuil, réalisateur, cinéaste. Meyrigg, c'est comme cela que l'on dit maman dans sa langue d'origine. 1924, fuyant le génocide arménien en Turquie, 5 silhouettes, le père, la mère, ses 2 sœurs et l'enfant, débarquent à Marseille. Le père vient d'être embauché aux raffineries de sucre Saint-Louis et loue une chambre meublée. Tantana présenta son chef-d'œuvre. Dans un plat ovale en aluminium, le gigot occupait le centre. Il était entouré de tranches de tomates, de courgettes et de pommes de terre surmontées de petits carrés de beurre. Cette présentation multicolore avait fière allure et annonçait un bien appétissant premier dîner sur le sol de France. « Anna, dit mon père, tes tranches de pommes de terre sont coupées trop fines. Le temps de cuisson du gigot va les brûler et les transformer en pommes chips. » Elle répliqua qu'elle ne coupait pas ses patates avec un centimètre autour du cou et que, si nous voulions, nourrir l'arrêter net dans sa petite colère. Elle réalisa qu'une fois de plus, elle était tombée dans le piège de mon père, qui était ravi de titiller son amour-propre de fine cuisinière. Elle disparut dans le couloir vers la cuisine, mais elle revint très vite avec son plat. Les locataires d'en face sont en train de dîner devant le fourneau. Je n'ai pas voulu les déranger. Il était pourtant bien convenu que nous devions nous servir de cette cuisine à tour de rôle, le temps de la cuisson, puis prendre nos repas dans nos chambres. Mais le couple et leur petit garçon, seul locataire de l'étage avant notre arrivée, avaient pris des habitudes et n'avaient pas l'intention d'en changer. Par deux fois, Kayane puis Anna, timide, souriante, s'étaient présentées devant la porte de la cuisine avec leurs plats. Vissés sur leurs chaises, accoudés à la table qui dressait un barrage devant le fourneau, ils ne bougeaient pas. Leur dîner était terminé depuis longtemps et l'homme tirait de sa cigarette de larges volutes de fumée qu'il soufflait vers le plafond en un geste provocateur. Dès notre arrivée dans cette ville, ma mère nous avait appris trois expressions. « S'il vous plaît, pardon, merci beaucoup ». Mon père débita d'un seul trait les trois à la fois, en tendant son plat vers le fourneau. Ce geste déclencha un hurlement inhumain qui me pétrifia. Par la porte ouverte, je voyais mon père devant la cuisine, tenant son plat des deux mains. Il hocha la tête plusieurs fois en signe d'impuissance, puis il se retourna pour regagner notre chambre. C'est sur cette dernière vision que notre porte se referma. Comme à son habitude, mon père nous épargna ce soir-là les mots qui chantent les illusions perdues. Il décida que nous achèterions dès demain un de ces fourneaux à pétrole avec la petite pompe sur le côté que l'on actionne pour activer les premières flammes, une table en bois blanc près du lavabo, une étagère dans l'angle, le tout isolé par notre paravent nous assurerait notre indépendance culinaire. Avoir faim par extrême pauvreté est une condition tragique qui, par sa relation de cause à effet, relève d'une certaine logique. Mais dans cette chambre où il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que la lumière soit, quatre adultes et un enfant devant un plat succulent qui n'attend qu'un peu de feu pour le rendre comestible, relevait de la plus stupide situation. Nous n'étions plus les maîtres de notre gamelle, mais des mendiants de feu. Dites, monsieur, vous n'auriez pas un peu de fourneau ou un petit morceau de four, s'il vous plaît? De feu en flamme et de fourneau en four, l'idée s'imposa comme une évidence. La boulangerie. Le magasin se trouvait à quelques pas de notre maison. La nuit était tombée maintenant. Quand nous arrivâmes avec notre plat, la grille de la boutique était baissée. Il n'y avait plus qu'un rectangle lumineux sur le trottoir, projeté par l'ouverture d'une lucarne à hauteur de sol. En me penchant, je vis en contrebas un homme tout blanc qui enfournait de grands plateaux de pâtisserie. Je fis signe à mon père d'approcher. Tête contre tête, nos regards couvraient le même champ de vision, le fournil et l'homme en blanc. Mon père passa sa tête par la lucarne. « Pardon, monsieur, pardon. » L'homme releva la tête, hésita un instant, puis il vint poser un escabeau contre le mur et apparut à notre hauteur. Mon père posa son plat sur le rebord de la lucarne. « S'il vous plaît, merci beaucoup. » Les genoux pliés sur le sol, nous attendions sa décision. Était-ce à cause de notre attitude involontairement pieuse, nos remerciements anticipés pour un service qu'il n'avait pas encore rendu, ou parce qu'il nous avait reconnus, nous avions ce matin-là échangé quelques gestes pour acheter un pain d'un kilo. L'homme nous sourit. Par geste, il nous indiqua la première porte cochère à droite, puis le couloir, et du plat de la main, il nous fit signe de l'attendre. Il était court le chemin entre notre quatrième étage et le sous-sol de ce boulanger, mais nous venions de passer d'une France hostile à une France plus cordiale. Ce bout d'amitié, nous l'avions trouvé ce soir dans le fournil d'un boulanger. Quand le bouchoir dégagea la gueule du four, un brassier écarlate nous illumina de ses feux et notre plat alla rejoindre les millefeuilles, les religieuses et les tartes aux pommes. Le français du boulanger me plut beaucoup. Je ne le comprenais pas davantage que notre vociférant voisin ou notre rondelette logeuse, mais notre boulanger semblait chanter sa langue. Mon père, avec une certaine témérité, tenta une bien périlleuse aventure en voulant expliquer à notre boulanger la recette du millefeuille oriental, le baklava, dont le seul point commun avec la pâtisserie française est que ni l'un ni l'autre ne contiennent millefeuille. C'est tout cela, je crois, que mon père voulait expliquer, ce soir-là dans le fournil de ce brave homme de boulanger, mais son vocabulaire toujours limité à « pardon, s'il vous plaît » et « merci beaucoup » transforma notre délicieux millefeuille en une décevante mélasse sucrée. Nos langues qui se tournaient le dos nous condamnèrent bientôt au silence, et notre homme en blanc se remit à travailler la farine à sa manière. Après son temps de cuisson, notre plat sortit du four. Superbe! Au contact du feu vif, le gigot avait revêtu une croûte brune, enveloppant la chair rosée de l'intérieur. Les pommes de terre étaient rissolées, les tomates et les courgettes roussies par le beurre. Notre boulanger fut intraitable sur le prix du feu. Il refusa d'être payé et nous fit comprendre qu'il accepterait volontiers d'accueillir notre prochain baklava dans son four. Mon père retrouva soudain une grande aisance du langage. Merci beaucoup. Merci.
Jean-Baptiste Grenouille, dont nous avons évoqué la naissance la semaine dernière, dans ce Paris empuanté du XVIIIe siècle, est un être difforme, à l'odorat exceptionnel. Il reconnaît le porteur d'un parfum de loin, de très loin. Il s'installe à Grasse et se spécialise dans la confection de parfums inédits. Il a pris conscience aussi que selon le parfum que l'on porte, le comportement des autres varie. Grenouille passait son temps dans l'atelier. Vis-à-vis de Druot, il prétendit vouloir inventer une recette d'eau de Cologne. Mais en réalité, il poursuivait des expériences sur des parfums tout différents. Le parfum qu'il s'était fabriqué à Montpellier tirait à sa fin, bien qu'il en usât très parcimonieusement. Il en créa un nouveau. Mais cette fois, il ne se contenta pas de mélanger à la hâte des ingrédients pour imiter tant bien que mal l'odeur humaine. Il mit son point d'honneur à se pourvoir d'un parfum personnel, ou plutôt d'une quantité de parfum personnel. D'abord, il se fit un parfum de banalité, un vêtement olfactif gris-souris pour tous les jours, où figurait bien encore l'odeur de fromage aigre propre à l'humanité, mais elle ne se dégageait plus à l'extérieur que comme à travers une épaisse couche de vêtements de lin et de laine enveloppant la peau sèche d'un vieillard. Avec cette odeur, il pourrait commodément se mêler aux hommes. Le parfum était assez fort pour justifier olfactivement l'existence d'une personne, mais trop discret pour gêner qui que ce fût. Du coup, Grenouille n'était pas vraiment présent par l'odeur et pourtant très simplement justifié d'être là. Position hybride qui lui convenait fort bien, tant dans la maison Arnulfi que lorsqu'il avait éventuellement affaire en ville. En certaines circonstances, à vrai dire, ce parfum modeste se révéla gênant. Quand il avait des courses à faire pour Druot ou que, pour son propre compte, il voulait acheter chez un marchand un peu de civette ou quelques grains de musc, il pouvait arriver qu'on le remarquât tellement peu qu'on l'oubliait et qu'on ne le servait pas. Ou bien on le voyait, mais on le servait de travers et on le plantait là, sans finir de le servir. Pour les cas de ce genre, il s'était composé un parfum un peu plus dru, sentant légèrement la sueur, un peu plus anguleux et encombrant, olfactivement parlant, qui lui donnait une allure un peu plus brusque et faisait croire aux gens qu'il était pressé et avait des affaires urgentes. Il avait réussi une imitation de l'aura séminalis de Druot, reconstitué à s'y tromper par un enfleurage de draps de lit crasseux à l'aide d'une pâte faite d'œufs de canard frais et de farine de froment échauffée, qui donnait de bons résultats quand il s'agissait de provoquer un certain degré d'attention. Un autre parfum de son arsenal était destiné à susciter la pitié et fit ses preuves sur les femmes d'âge moyen et avancé. Il sentait le lait maigre et le bois tendre et propre. Quand il s'en mettait, Grenouille, même s'il était mal rasé, qu'il avait la mine lugubre et qu'il était enveloppé d'un manteau, faisait l'effet d'un petit garçon pâle dans un pourpoint élimé. Et il fallait l'aider. Sur le marché, quand elle flairait son odeur, les marchands lui fourraient dans les poches des noix et des poires sèches, parce qu'il avait l'air d'avoir faim et d'être désemparé. Et la femme du boucher, au demeurant une implacable garce, lui permettait de faire son choix parmi les déchets nauséabonds de viande et d'os, et de les emporter gratis, car ce parfum d'innocence faisait vibrer en elle la corde maternelle. Ces déchets, à leur tour, lui fournirent par extraction directe à l'alcool les principaux ingrédients d'une odeur qu'il prit lorsqu'il voulait à tout prix être seul et qu'on s'écarte de lui. Cette composition suscitait autour de lui une atmosphère de vague nausée, une exhalaison putride, analogue à celle qui émane au réveil des vieilles bouches mal entretenues. Elle était si efficace que même Druot, pourtant peu délicat, ne pouvait faire autrement que de se détourner et de prendre le large, sans d'ailleurs savoir clairement ce qu'il avait réellement chassé. Et quelques gouttes de ce repellent, lâchées sur le seuil de la cabane, suffisaient pour tenir à l'écart tout intrus, homme ou bête.
Après un divorce, une dépression, Lise décide de tout plaquer pour partir seule à travers le monde. Mange, prie, aime, est la quête spirituelle de cette femme à travers l'Italie, l'Inde et l'Indonésie. Lorsqu'on l'interroge, l'auteur déclare que son meilleur souvenir en Italie est la pizza mangée à Naples, si divine. Giovanni m'a donné l'adresse d'une pizzeria où je devais absolument aller parce que, m'a-t-il dit, on y mangeait la meilleure pizza de Naples. Il m'a glissé l'adresse en la pressant au creux de ma paume et il a dit du ton de la confidence la plus grave. « S'il te plaît, va dans cette pizzeria, commande la margherita avec un double mozzarella et si jamais tu ne le fais pas, s'il te plaît, mens-moi et dis-moi que tu l'as goûté. » Sophie et moi sommes donc venus ici, à la pizzeria da Michele, et ces pizzas que nous avons commandées, une chacune, sont en train de nous faire perdre la tête. J'aime tellement ma pizza, en fait, que j'en suis venue à croire, dans mon délire, qu'elle pourrait très bien m'aimer en retour. J'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza, c'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse. Quant à Sophie, elle est pratiquement en larmes au-dessus de la sienne. Sa pizza la plonge dans une crise métaphysique. La pizzeria da Michele est un petit restaurant avec deux salles seulement et un four qui fonctionne en permanence. À 13h, les Napolitains font la queue dans la rue pour tenter d'obtenir une table et ils jouent des coudes comme s'ils cherchaient à s'assurer une place sur un canot de sauvetage. Il n'y a pas de menu. On ne propose ici que deux sortes de pizza, normale ou avec double portion de fromage. Rien à voir avec ces âneries de pseudo-pizza New Age avec olives et tomates séchées au soleil qu'on trouve en Californie du Sud. La pâte, et il me faut attendre d'avoir mangé la moitié de ma pizza pour m'en apercevoir, a un goût plus proche de celui du naan indien que de celui des pâtes à pizza qu'il m'a été donné de goûter jusque-là. Elle est souple, molle, élastique, mais incroyablement fine. J'avais toujours cru qu'en matière de croûte et de pizza, il n'existait que deux options, fine et croustillante ou épaisse et dense.
Comment aurais-je pu savoir qu'il pouvait exister en ce monde une croûte à la fois fine et dense, le Saint des Saints? Une pizza paradisiaque, légère, compacte, goûteuse, collante, savoureuse, molle, salée. Elle est garnie d'une sauce tomate, légèrement sucrée et écumante, qui se boursoufle et devient crémeuse lorsqu'elle se mélange à la mozzarella, fraîche, de bufflone, et l'unigrammeau de basilic qui trône en son centre se débrouille pour diffuser à l'ensemble son arôme, un peu comme une star de cinéma, scintillante dans une fête teinte de glamour et irradie tous ceux qui se trouvent autour d'elle. Bien entendu, techniquement, ce truc est impossible à manger. Vous essayez d'en détacher une bouchée, et là, la croûte souple se replie, le fromage fondu se fait la malle, comme la couche arable lors d'un glissement de terrain, et au final, c'est un vrai carnage, sur vous, sur tout ce qui vous entoure, mais débrouillez-vous avec. Les types qui font ce miracle s'activent devant le four alimenté au bois, enfournent les pizzas, les retirent à la chaîne. On croirait voir des chauffeurs dans le ventre d'un énorme navire en train d'alimenter à grande pelletée de charbon le brasier dans les chaudières. Manches roulées sur les avant-bras, couverts de transpiration, visage rougi par l'effort, ils ferment un œil pour se protéger de la chaleur du feu, et une cigarette pend entre leurs lèvres. Sophie et moi commandons chacune une autre pizza. Et Sophie essaie de recouvrer ses esprits. Mais franchement, la pizza est si bonne que c'en est difficilement supportable. Un mot à propos de ma ligne. Je gagne chaque jour un peu de poids, évidemment. J'inflige de rudes épreuves à mon corps ici en Italie, à force d'avaler une si effroyable quantité de fromage, de pâtes, de pain, de vin, de chocolat et de pizza. Je ne fais pas de sport, je ne mange pas assez de fibres, je ne prends aucune vitamine. Dans ma vraie vie, j'étais connue pour manger des yaourts bio au lait de chèvre, saupoudré de germes de blé au petit déjeuner. Les jours de ma vraie vie sont loin derrière. Aux États-Unis, mon amie Suzanne raconte aux gens que le mot d'ordre de mon grand voyage est « Aucun glucide ne passera entre les mailles du filet ». Mais mon corps est bon joueur. Il fait l'autruche face à mes agarrements et mes excès, comme pour dire « D'accord, petite, mène grand train, je comprends bien que c'est temporaire. Préviens-moi quand ton expérience du pur plaisir sera terminé et je verrai ce que je peux faire pour réparer les dégâts. En tout cas, quand je me regarde dans le miroir de la meilleure pizza de Naples, je vois un regard vif, une peau saine, un visage rayonnant de santé. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel visage en me regardant dans une glace. Merci, je murmure. Ce récit d'Elisabeth Gilbert, écrivain et journaliste américaine, est publié en 2006 par Viking Pagan à New York et en 2008 chez Kalman Levy pour la traduction française de Christine Barbas.
Christian Rullier fait partie des grands auteurs d'aujourd'hui. Son écriture est franche, généreuse, violente, acerbe, inattendue. Tous les ingrédients sont là pour nous donner de l'émotion. C'est ainsi que Jean-Louis Bourdon dépeint Christian Rullier, qui est né en 1957 à Barbezieux. Tripes et boyaux s'inscrit dans un collectif de textes pour le théâtre intitulé « Confessions gastronomiques ». Voix off, masculine avec micro. Terrine de carpe et de lapin, cassolette d'escar au jus gluant, fricassée de tout à la sauce veine et blanche, semblable à une page à écrire, bavette de bon aloi taillée avec la bête, émincée d'émental avec son coulis purgeant, dinde givrée au marron, farcie à ma façon si tu vois ce que je veux dire, poulette idem à feu doux dans son sang, canard boiteux gercé sous les manchons, gigot d'agneau de lait arraché à sa mère, rôti de bœuf et d'âne élevé dans la sainte pagaille, moutard beuglant au bain-marie, saucisson aliéné dans sa robe de chambre, boulettes de viande avariées aux trois parfums, la vie, l'amour, la mort. Soufflets, surprises et ses accommodements selon arrivage. Saumon du Cantal au caviar Berrichon. Confie-toi à moi, ma fille, discrétion assurée. Sushi mou torché à la feuille de vigne, poêlé de champignons haineux à la queue plus grosse que ton ventre. Tartare de Tarascon taré comme à la maison, sol lascive de Don Rémy et son armure à commande vocale. Asticot à la mode sur cadavre fraîchement désossé. Paupiettes closes sur des yeux de braise, poitrine chaude et ses deux pointes d'asperges sous la mousseline, cuisses entrouvertes sur son lit de fortune. Se retenir un peu, oh non, pas tout de suite, prendre le temps de saliver, de manger du regard. Et puis doucement, tout doucement, approcher la bouche et...
Voilà, chers amis auditeurs, nous espérons que le bouquet du vin exceptionnel de Jean-Paul Kaufmann, mêlé au printemps de Vivaldi, au temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, interprété par Yves Montand, vous laissera dans un tourbillon bien agréable. Nos émissions sur Senteurs et Saveurs prennent fin. Aujourd'hui, les textes étaient lus successivement par Annick, Monique, Ouria, Christine, Annie et Anne. La technique était assurée par Vincent et Claude Michel. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.